Chapitre 48. Les bagages s'accumulent. Les aérials et les nautiques ont passé toute la journée à se préparer pour la grande migration. Quand le coq de bruyère hurle le matin du jour suivant, ceux qui sont prêts à partir sont déjà réunis sur l'agora. Alice est prête, elle aussi. Pour l'occasion, la scientifique porte une veste en cuir, un pantalon bouffant et des bottes de cuir marron. Elle a récupéré, dans le grenier de la villa, une casquette, en cuir elle aussi, et des lunettes enveloppantes ayant probablement servi à des aviateurs de la guerre de 14-18. Le roi Poséidon s'avance vers elle et la prend affectueusement par les épaules. « Mère, ne sois pas triste, » lui dit-il. « Nous aurions fini par partir un jour. Tu n'as pas failli. Ce n'est pas un échec. C'est simplement le sens logique de l'évolution de nos trois espèces. » Puis il l'embrasse. Poséidon jette un regard à Hermès, qui se tient un peu à l'écart. En guise de salut, il se contente d'un regard gêné et d'un hochement de tête. « Il faut que je parte maintenant. Adieu, mère, et merci de nous avoir créés. » Ophélie les rejoint. Elle a, pour sa part, opté pour un anorak mauve, un bonnet de laine et des lunettes de ski au vert teinté. Pour le reste, elle est vêtue comme à son habitude, de sa salopette en jean et de ses baskets. « Adieu, frère, » dit-elle en étreignant l'homme dauphin. Poséidon fait signe à son peuple de se regrouper pour former une ligne cohérente. Il propose que ceux qui portent les bagages les plus encombrants restent à l'arrière. Puis l'ensemble des nautiques emprunte en sens inverse le chemin qui les a menés là, 5 ans auparavant. Ils quittent les temps de Cucufa, guidés par le roi Poséidon. Alice regarde les alentours. Aucun digueur n'est venu les saluer, même de loin. Ainsi, même en ce jour particulier, je n'aurais pas réussi à réconcilier mes enfants. J'ai l'impression que le drame de toutes les dynasties se reproduit. Les héritiers se retrouvent concurrents et finissent par se quereller jusqu'à la plus extrême des violences, la séparation ou la mort. Ils sont aveuglés par leurs griefs réciproques, au point d'oublier leurs devoirs envers leurs parents. L'Europe elle-même a été divisée en 3 royaumes distincts par les petits-fils de Charlemagne et ne s'en est jamais remise. Mais peut-être que ce n'est qu'une étape et qu'un jour mes enfants hybrides finiront par se réconcilier aussi naturellement qu'ils se sont fâchés. Après tout, 1200 ans après la division de l'Europe est apparu le projet de l'Union européenne. Il faut être patient. En tout cas, je ferai tout pour qu'ils se retrouvent en paix. Je ne dois pas perdre de vue cet objectif. » Alors que le dernier nautique est désormais parti, les 832 aérials s'activent encore pour préparer leurs bagages. Hadès arrive sur l'agora. Il jette un œil à Alice, qui, avec Ophélie, range ses dernières affaires, mais n'accorde aucune attention aux hommes chauves-souris.
« Je n'allais pas te laisser partir sans te dire au revoir, mère. »
Il a le regard fuyant, comme un enfant qui aurait fait une bêtise. « Je me demandais justement si tu allais venir, » lui dit Alice.
« Ce qui s'est passé est impardonnable, mère. C'est nous qui avons eu le plus de victimes à déplorer. 24 morts, assassinés par les aérials et les nautiques. Je suis bien content qu'ils déguerpissent. Je crois que les miens ne les supportaient plus, tu sais, mère. Nous subissons depuis plusieurs années déjà le racisme de la part des... Enfin, de ceux qui partent avec toi. »
Hermès, qui écoute de loin cet échange, se retourne. « Tu parles encore de nous, Hadès ?» demande-t-il agressif.
« Ce n'est pas à toi que je parle, mais à mère, »
lui répond Hadès du tac au tac. Puis il reprend.
« Nous allons désormais suivre des routes séparées pour le bien de tous, y compris le tien, mère. Maintenant que les bonnes décisions ont été spontanément prises, je peux te l'avouer, je me sens soulagée. Si les aérials et les nautiques s'étaient restés, nous n'aurions eu qu'un seul objectif, les tuer. »
Alice garde le silence pour ne pas envenimer les choses. Alors Hadès la prend dans ses bras, l'embrasse sur la joue et se dirige vers la pyramide noire. Quelle distance nous sépare de Val Thorens ? Demande Ophélie qui sent que sa mère est à bout de nerfs.
Un peu plus de 600 kilomètres, répond Alice sans quitter des yeux Hadès qui leur tourne le dos.
À quelle vitesse penses-tu que les aérials peuvent voyager dans le ciel ?
Alice réfléchit puis dit « 40 kilomètres par heure. Nous ne pourrons pas faire le trajet d'une traite. Nous devrons faire une halte à mi-chemin. »
« Je suis prêt !»
déclare Hermès. Alice serre son bonnet de cuir et met ses lunettes d'aviatrice.
« Je suis prête moi aussi !»
dit Ophélie en lançant un clin d'œil à Hermès. Puis elle ajuste ses lunettes de ski et son bonnet de laine. Autour d'eux, les aérials porteurs de bagages ont déjà saisi leur fardeau, prêts à décoller. Hermès prend Alice par la taille en la serrant entre ses jambes. Un autre aérial mâle de grande taille saisit de la même manière Ophélie.
« On y va ?»
demande Hermès.
« Je suis prête, »
répond Alice. Le roi des aérials pousse un piaillement dans les ultrasons qui donne le signal du départ à ses congénères. Les ailes des hybrides se déploient dans un grand bruissement et comme les flamants roses qu'ils ont vus lors de leur descente de la Seine, tous les aérials décollent simultanément pour former une sorte d'essaim. Malgré la pointe de nostalgie qui lui transperce le cœur, Alice apprécie cet instant de libération de l'attraction terrestre.
Il y a si longtemps que je n'ai pas ressenti une telle liberté.
Elle monte. Elle voit la forêt en bas, repère la pyramide de terre des diggers qui ne cesse de rétrécir. Plus loin, elle distingue le groupe des Nautix qui avance vers la Seine.
Poséidon a raison. Ils rêvaient tous de voir la mer. Ils seront heureux lorsqu'ils goûteront à cette sensation extraordinaire de l'eau à l'infini.
Ils continuent de monter. Après avoir atteint l'altitude qu'ils souhaitent, Hermès plane. Ils remontent ainsi le fleuve et arrivent au-dessus de Paris. D'en haut, la capitale ressemble maintenant à une forêt tropicale d'où émergent toujours la tour Eiffel et la basilique du Sacré-Cœur au sommet de la butte Montmartre. Les nombreux oiseaux qui la survolent approchent, curieux de savoir qui sont ces étranges migrateurs qui, au lieu de partir au sud, se dirigent vers l'est.
L'idéal pour que je reconnaisse le chemin,
hurle Alice pour couvrir le bruit du vol,
serait que tu suives l'autoroute A6. C'est le grand ruban gris et vert qui descend vers le sud-est.
Hermès repère l'objectif, puis il émet un cri strident. Les aérials se regroupent derrière lui. Le souffle du vent dans les ailes se fait moins gênant et un dialogue s'installe entre l'hybride et sa passagère.
Je te sens moins crispé.
Ce n'est pas un effet de l'ivresse de l'altitude, au moins, questionne-t-il.
Je crois que je me détends enfin, c'est vrai,
admet la scientifique.
J'ai l'impression d'être emportée par un ange vers le paradis.
C'est peut-être ce qui arrive aux gens quand ils meurent. Un ange qui me ressemblerait les emmène vers un monde meilleur.
Si ce n'est que c'est un être volant immatériel qui emporte l'esprit, alors que c'est un être bien vivant, en chair et en os, qui soulève mon corps et le libère des lois de la gravité.
J'aurais pu être un ange si tu m'avais fait naître avec des plumes plutôt que des membranes.
Benjamin Wells pensait la même chose,
répond Alice avec mélancolie.
Parce que là, nous ressemblons plutôt à des diablotins. Je vous ai donné une peau la plus claire possible, presque blanche, justement pour que vous ayez l'air un peu moins diable. Dans mon esprit, je vous voyais plutôt comme ce super-héros mi-homme, mi-chauve-souris, Batman, celui avec le masque noir et les oreilles en pointe.
Bien sûr, Batman, c'est la série préférée de la plupart des aérials, s'enthousiasme Hermès.
Les Nautix préféraient évidemment la très vieille série télévisée L'Homme de l'Atlantide.
Il accompagne sa remarque d'une moue de dégoût.
Et pour les Diggers, en revanche, aucun super-héros à l'horizon.
Bien sûr que si, dit Alice. Il y a un super méchant dans la série des Quatre Fantastiques, un des personnages qui se nomme Moleman, ce qui signifie l'homme taupe.
Finalement, tu n'as rien inventé, mère.
Disons que je m'inscris dans une tradition millénaire.
L'humain cherche depuis longtemps à mélanger sa forme avec celle des animaux. Déjà, dans la mythologie grecque, les légendes fourmillent d'être mi-homme, mi-bête. Sans parler du panthéon égyptien où tous les dieux ont des têtes d'animaux. Lion, chat, ibis, faucon, serpent, crocodile. Les fameuses chimères. Le mot chimère est aussi devenu synonyme de choses impossibles à réaliser, d'utopie, de rêves déraisonnables, de fantasmes. Alice s'étonne de parler de ce sujet avec un hybride en planant au-dessus des nuages. Hermès accélère ses battements d'ailes pour reprendre un peu d'altitude. « J'ai localisé un trou d'air, » signale-t-il. « Il nous faut le contourner. »« Comment l'as-tu repéré ?» l'interroge Alice, toujours impressionnée par les qualités particulières de chacune des espèces hybrides. « Les poussières ! Même toi, tu peux les voir, non ?» Elle plisse les yeux pour avoir une vue plus précise. Et puis, lorsqu'il y a au sol des zones sombres, a fortiori des lacs ou des rivières, un courant d'air froid se crée et nous tire vers le bas. De la même manière, les zones claires génèrent des courants d'air chaud ascendants. Et pour lui démontrer son explication, Hermès se dirige à grands coups d'aile vers un champ de fleurs jaunes et s'immobilise. D'un coup, sans bouger les bras, il s'élève de quelques mètres. Tu possèdes intuitivement une connaissance de la navigation aérienne ? C'est extraordinaire ! Se réjouit Alice. Il traverse un nuage comme un plafond de coton. La sensation est surprenante. Puis, l'ascension se stabilise. La scientifique jette un coup d'œil à Ophélie, qui, plus encore que sa mère, semble éprouver un vif plaisir à voler très haut.
Ça va, ma fille ? Pas trop le vertige ?
Le vertige ? Maman, je suis née pour voler !
Les courants d'air les forcent à s'éloigner. Mère et fille se font un signe de la main. Après plusieurs heures de vol, les seins d'Aerials commencent à être fatigués et se déplacent de manière moins homogène. Transporter des charges les épuise et ils sont obligés de faire des pauses tous les 30 km avant de s'élancer de nouveau. Alice et Ophélie changent souvent de transporteur, car elles sont plus lourdes que les bagages conventionnels. Une demi-journée de vol plus tard, ils ont parcouru 400 km.
Nous sommes tous exténués. Il faut nous arrêter, annonce Hermès. Comment s'appelle cette ville, là, tout en bas ?
Demande-t-il avec un signe de tête en direction de la Terre.
Chalon-sur-Saône,
dit Alice qui a reconnu la cité bourguignonne dans sa jeunesse.
Et où nous situons-nous par rapport à l'objectif final ?
Nous avons effectué plus de 60% du trajet depuis notre départ de Cucufa. Il reste environ 270 km pour rejoindre Val Thorens, à vol d'oiseau. Mais l'air risque d'être plus froid, sans compter le changement de pression dû à l'altitude.
Ils atterrissent à Chalon-sur-Saône. La ville, dont le niveau de radiation est supportable, conserve les traces des bombardements passés. Tout est dévasté. Les 832 aérials et les deux humaines cherchent un endroit où s'abriter pour la nuit.
Nous n'avons pas été les premiers à passer ici,
fait remarquer Ophélie en montrant, à l'entrée de la ville, un embouteillage de voitures rouillées et recouvertes de plantes.
Ils ont voulu migrer vers les montagnes, mais ils ont dû tomber en panne d'essence,
estime Alice. Les deux femmes partent à pied explorer les abords de la ville. Elles trouvent un supermarché encore achalandé en boîtes de conserve. De retour près de la communauté, elles les ouvrent, les réchauffent grâce à un réchaud encore équipé de sa cartouche, et tous dînent ensemble.
« Maman, je te comprends pas, »
dit Ophélie entre deux bouchées.
« Tu as initié un projet génial, toi-même tu es génial, mais par moments j'ai l'impression que tu ne saisis pas la portée de ton œuvre. Tu veux que je te dise, tu es dépassée par tes créations. Tu t'es donné tellement de mal par le passé pour que ces hybrides existent que tu ne mesures ni leur potentiel, ni leur danger. »
« Tu as sûrement raison, ma fille. »
« Tu parles aux aérials comme à des enfants, »
continue Ophélie.
« Tu te fais appeler mère, mais ce ne sont plus des bébés, c'est l'humanité du futur. Tu le répètes à longueur de journée, pourtant tu n'agis pas en conséquence. J'ai même parfois l'impression que tu les considères comme des êtres inférieurs, des animaux. » en train d'être éduquée par ma propre fille. Elle a vu juste. J'appartiens à un monde qui pense que seuls les humains anciens sont les vrais humains. J'envisage mes créatures comme mes enfants, mais pas comme mes égales. Tu sais, j'écoute souvent ce que disent les hybrides entre eux. Et ils te respectent comme je te respecte. Mais ils estiment aussi, comme moi, que tu fais partie d'un monde révolu et que tu ne comprends pas les enjeux qui sont en train d'émerger.
Si je m'attendais à être traitée de has-been, moi qui ai toujours voulu être à l'avant-garde de toutes les recherches scientifiques, il est facile de juger quand on n'a pas tous les éléments en main, ma chérie.
Je ne te juge pas, maman. J'essaie de te faire prendre conscience du fait que toi aussi, tu dois changer. Sinon,
ce sera à toi, Ophélie, de prendre la relève. La coupe Alice, soudain lasse. Je suis fatiguée, je vais me coucher. Une fois le repas achevé, tous se dirigent vers leurs abris de fortune respectifs. Les deux femmes ont choisi une petite maison envahie de plantes, mais dont les lits sont encore utilisables. Elles s'allongent, mais Ophélie voit bien que sa mère ne s'endort pas.
« J'ai adoré cette journée »,
dit-elle pour la réconforter. Alice ne répond pas tout de suite. Les mots de sa fille l'ont plus blessée qu'elle ne veut bien l'admettre. Si j'ai bien compris, en tant que has-been qui ne voit pas le futur, je risque de ne pas comprendre ce qui va se passer, c'est ce que tu penses.
Oui.
Eh bien, je vais peut-être te surprendre, mais je crois que le meilleur est à venir. Ophélie ne répond pas, puis, après un moment de silence, dit
« Un jour, je souhaiterais voler avec Hermès. »
« Si tu veux. »
« Bonne nuit, maman. »
« Bonne nuit, Ophélie. » Alice reste encore un certain temps les yeux ouverts à fixer le plafond.
Ophélie a beaucoup changé. Ce n'est plus une jeune fille. C'est une femme désormais. Elle s'affirme en s'opposant à sa mère, comme c'est souvent le cas. Et je crains qu'avec le temps, nos rapports se compliquent. Surtout si elle crée une complicité particulière avec les Aerials. N'est-ce pas le lot de toutes les nouvelles générations? Rendre obsolète l'ancienne, essayer de faire mieux que ses propres géniteurs.